France Culture. Les nuits de France Culture.
Comment lire le mythe de Casanova aujourd'hui? C'est la question que posait l'émission qui va suivre. Aujourd'hui, c'était en l'occurrence en 1998, deux siècles après la mort de Giacomo Casanova, quand dans Staccato, Antoine Spire invitait pour répondre à cette question le neurobiologiste Jean-Didier Vincent et le psychiatre Jacques-Antoine Malarevitch. Une émission qui avait pour invité principal, pour invité vedette en quelque sorte, l'un des plus casanovistes parmi les casanovistes de son temps, Philippe Solers, qui publiait cette année-là « Casanova, l'admirable ». De la réunion de ses admirateurs inconditionnels du Vénitien, auxquels se mêlaient les voix de Chantal Thomas et de Maurice Levert, émergeait le visage d'un Casanova, ni mythique, ni mythologique, mais humain, vivant, plus qu'aucun autre ne l'avait été dans son siècle. Grandeur d'un homme, grandeur d'un écrivain, grandeur d'un siècle, celui des Lumières, que Solers ne manquait évidemment pas d'opposer au siècle suivant. Un portrait à plusieurs voix de Casanova, sur lequel le portraitiste Solers, pour mieux souligner les flamboyantes couleurs du personnage, veillait à poser les quelques touches nécessaires du noir qui révèle tout l'éclat d'une existence. Staccato, le mythe de Casanova, première diffusion le 15 octobre 1998 sur France Culture.
Staccato, Antoine Spire, bonsoir. Nous sommes donc à l'hôtel de Massa, la Société des gens de lettres. Giacomo Casanova, puisque c'est le mythe de Casanova que nous voulons aborder, c'est un de ces hommes dont le destin est devenu légende. Sans doute mythe parce qu'énigme, tour à tour soldat, courtisan, diplomate, financier, publiciste... Soupçonné d'être un agent secret, escroc, imposteur, ce libertin européen avant la lettre. Déjà, Solers gigote sur son fauteuil parce que je n'ai pas encore dit qu'il était écrivain. Donc, soupçonné d'être un agent secret et européen avant la lettre, il passe ses 10 dernières années comme bibliothécaire du comte de Waldstein à écrire un livre décisif qui s'appelle « L'histoire de ma vie » et dont le succès devait être extraordinaire. Le premier mérite de Philippe Solers, qui nous accompagnera tout au long de cette émission, c'est d'avoir emboîté le pas de ses mémoires et d'en proposer un florilège gourmand. Notre première invitée sera une jeune femme qui vient de publier son premier roman, Croque en jambes, Vanessa Zocchetti. Son héroïne est séduisante et envoûtante, comme Casanova, bien qu'elle soit une femme. Mais elle tient aussi de l'ogre et du vampire. Elle est pleine d'énergie, loin du mythe familial, comme Casanova, mais elle s'en différencie en flirtant avec un sadomasochisme qui rassemble ses adeptes en bande. Sur le grill posera le problème de la lecture du mythe de Casanova avec Jean-Didier Vincent, neurobiologiste, auteur de Casanova, la contagion du plaisir aux éditions Odile Jacob, qui vient de publier chez Odile Jacob un livre dont nous reparlerons à Staccato qui s'appelle « La vie est une fable ». Il sera confronté à Jacques-Antoine Malarevitch, psychiatre et directeur de collection chez ESF. Philippe Solers, bien sûr, conclura notre émission en nous invitant à quitter le mythe pour la réalité d'un homme, écrivain donc, philosophe, cynique et tendre, attentif au plaisir féminin, libertin et amoureux de la liberté. Au fait, Casanova ou Solers ?
Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amo il padron mio, un catalogo è che ho fatto osservate. Leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia. sempre 40. In Alemagna 231. 100 in Francia e Turchia 91. Ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. 1003.
Contrairement à Don Juan, c'est un jouisseur et doublé d'un cynique. Et pour finir, c'est quelqu'un qui aime bien les ennuis.
Qu'est-ce que ça évoque pour vous le mythe de Casanova ?
Venise, avec ses palais, ses ruelles tortueuses, c'est les ombres que la ville crée par son architecture. Et puis on imagine cet homme déambulant dans ses énormes palais, ses salles immenses décorées. Puis ça évoque surtout l'histoire d'un homme qui faisait tourbillonner les femmes, infatigable, éternel.
Le cœur qui bat toute la vie pour un bruit de la robe soyeuse, pour le regard lumineux d'une femme. Et puis vice-versa, pour les femmes, ça présente un amant éternel.
L'homme dragueur, l'homme voyageur qui ne s'attache pas. L'homme sans limite, l'homme moderne.
Peut-être tout ça qui est face au néant, face à, c'est quelqu'un qui doit être très malheureux.
Soders me glissait, c'est où ça ? Alors je lui réponds, devant tout le monde, eh bien c'est tout simple, c'est un micro-trottoir de gens astucieux qui ont dit tout simplement qui était Casanova à leurs yeux aujourd'hui, ce qui montre qu'on sait peut-être mieux que Soders ne le croit qui est Casanova aujourd'hui. Mais nous allons commencer avec quelqu'un qui s'est inspiré un petit peu de Casanova, qui est un écrivain, qui est Vanessa Zocchetti, donc, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous avez écrit Croque en jambes. Je vais tout de suite dire que votre héroïne, Casimira, est irrésistible, comme Casanova. Cependant, c'est une teigne, un peu estropiée, c'est une créature démoniaque ou divine, on ne sait pas. En tout cas, elle est un peu nympho, elle est un peu midinette, elle est un peu bas bleu. C'est quelqu'un qui finalement a des attitudes un peu hystériques, elle est un peu cheftaine de bande. Et en quoi elle ressemble à Casanova, à votre avis ?
Pour tout vous dire, je ne me suis pas du tout inspirée de Casanova, parce que pour moi, Casanova était ce mythe dont les gens ont parlé dans le micro-trottoir, c'est-à-dire le séducteur, l'homme qui aime les robes, qui froufroute. Et Casimira n'est pas du tout ça. Elle passe sa vie à poil, enfin en gros. Elle est assez sale.
On va revenir sur la saleté. Mais écoutez, d'abord, elle est séductrice. Parce que
c'est une
sinon,
séductrice.
Sinon, on va croire que j'ai eu tort de la choisir.
Non,
j'ai choisi Casimira parce que moi, elle m'a fait penser un peu à, voilà, à Casanova. Et puis ça m'amusait d'avoir un Casanova féminin.
C'est vrai que c'est une séductrice. Mais quand j'ai lu le livre de Philippe Solers, je trouvais qu'elle ne lui ressemblait pas tant que ça. Mais c'est vrai que peut-être qu'inconsciemment, j'ai été inspirée, parce que Casimira, Casanova, il y a des petites sonorités comme ça. Mais à part la séduction et le plaisir, parce qu'elle aime faire l'amour, elle ne fait pas vraiment l'amour, je crois, elle baise plutôt, mais elle aime ça, elle aime la jouissance.
Et... Non, mais aujourd'hui, vous savez, on baise, on ne fait plus l'amour aujourd'hui.
C'est pas vrai.
Ah bon ?
On peut faire les deux.
Oui, on peut faire les deux. Et donc, elle aime le plaisir, elle aime en donner. Et je crois qu'en ça, elle ressemble à Casanova.
Nicolas Martin.
Oui, alors il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'elle baise, comme vous dites, mais d'une façon quand même particulière, puisqu'elle est courte, ses amants. Autrement dit, Casimira est un cul-de-jatte.
Non, pas comme vous croyez.
Cul-de-jatte.
Ce qui se disait, ça y est, les chattes. Mais non, pas du tout.
Elle fonde une société cul-de-jattesque.
Oui. Si elle les avait châtrées, je pense qu'elle aurait été très malheureuse. Donc elle ne fait que leur couper les jambes pour créer...
Rien que ça.
Ce n'est qu'un début.
Voilà, pour créer un monde à son image, c'est son objectif. Elle veut que les gens lui ressemblent. Et en fait, c'est un livre un peu sur la norme. Donc voilà pourquoi elle leur coupe les jambes.
Alors... Pardon. Non, ce qui la différencie aussi de Casanova, c'est qu'elle tient un peu du vampire. À savoir, ses amants, par exemple, après avoir été courtés, ils rajeunissent. Elle n'a de cesse de dire dans le livre qu'elle aime la nuit, la ténèbre, etc. Il y a un motif un peu qui rappelle les vampires dans votre personnage.
C'est vrai qu'il y a quelque chose du vampire, mais il y a aussi quelque chose de l'animal. En fait, chaque fois qu'elle sort d'un long sommeil chaque fois qu'elle a amputé un certain nombre de gens. Elle passe à une autre phase de sa vie, de plus en plus inhumaine, de plus en plus féroce, de plus en plus animale. Donc il y avait chaque fois qu'elle, en fait, ces ténèbres, etc., c'était un passage, une perte un peu plus de l'humanité. C'était ça mon objectif.
Alors Vanessa Zocchetti, vous avez prononcé le mot de crasse tout à l'heure. On va essayer d'y revenir, parce que son goût pour la crasse, son goût pour les shows érotiques, son goût pour la puanteur de la mort, nous éloigne bien sûr de Casanova et de toute esthétisation du sexe. Je pense que derrière cette idée d'une sexualité un peu débordante, qui ne pourrait se déployer que dans la saleté, il y a quelque chose comme un jugement moral chez vous. Alors là, on est très loin de, on est très loin de Casanova. Un peu comme si un corps jouissant, à vos yeux, ne pouvait être qu'un corps poisseux, un peu sale.
Non. Je ne suis pas une dévote, comme dirait Solaire, dans son livre.
Non. Je n'ai pas dit que vous étiez une dévote. Alors, disons tout de suite ce que dit Solaire. Les femmes dévotes, finalement, jouissent infiniment mieux que les autres. Et ce qui est formidable, c'est le moment de la jouissance chez la femme dévote. Vous n'êtes pas une dévote, donc le moment de la jouissance n'est pas formidable avec vous.
Ça dépend des messieurs. Moi, j'ai pas du tout voulu donner un aspect moral au sexe. Casimira aime le sexe. Mais c'était plus extérioriser sa crasse intérieure. C'est quand même un monstre, cette femme-là. Et je pense que il y a un problème de perception ou quelque chose comme ça. Mais moi, quand je décris la crasse, c'est plus une description du personnage, c'est-à-dire un personnage monstrueux qui veut que le monde soit à son image, qui est fasciste. Et donc, cette crasse permanente dans laquelle elle baigne, c'est un peu l'image du monde qu'elle veut créer. Et pas du tout l'image de la sexualité.
Nicolas Martin.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette violence, cette monstruosité, elle trouve son origine dans sa haine pour les bipèdes et les humiliations qu'elle a subies, Antoine y faisait allusion tout à l'heure, notamment dans ses shows érotiques.
Tout à fait, oui. Elle déteste les gens qui l'ont fait souffrir. Et donc, comme elle les déteste, elle a décidé de se venger. Et pour se venger, elle n'a rien trouvé de mieux que de prendre le pouvoir et de les soumettre.
Voilà. Alors, elle soumet les hommes.
Et les femmes.
Elle a un pouvoir. En fait, elle a un pouvoir sur les êtres qui sont autour d'elle, qui est d'abord un pouvoir de séduction.
C'est une séductrice. C'est pour ça que c'est un Casanova femme. C'est vrai que c'est une séductrice. Elle est extrêmement belle. On ne sait pas comment elle est vraiment dans le livre. Elle n'est pas décrite. Je voulais laisser au lecteur, justement, la magie d'inventer quelqu'un qui est très très séducteur.
Alors elle séduit des vieux,
elle séduit des jeunes comme Théophile Burnier,
elle séduit ici Titon qui regarde Casimira comme un cul-de-jatte cloué sur son chariot, elle séduit toute une série de personnages et on a l'impression que l'acte de domination qui passe par la séduction l'enchante et que ce qui est essentiel pour elle, c'est cet acte de séduction-domination.
Tout à fait. Je pense que sa domination passe par la sexualité. En fait, elle séduit pas mal d'hommes qui, au fond, je ne sais pas s'ils ont eu véritablement du plaisir jusqu'à leur rencontre. Et c'est évident que la sexualité lui permet de manipuler les gens. C'est ce que je voulais introduire. Le plaisir lui permet de manipuler les gens.
Alors, il faut dire que ces relations sont...
Mais aussi bien les femmes que les hommes, hein.
Ces relations sont quand même sadomasochistes parce que elle, notamment Casimira, comment dirais-je, elle a un plaisir particulier à les faire souffrir. D'ailleurs, elle mord leur tendon d'Achille, et leur tendon d'Achille, en l'occurrence, c'est leur moignon, puisqu'ils n'ont pas de jambes. Ce qui est quand même tout un programme.
Oui, je pense qu'elle mêle plaisir, souffrance, mais c'est des choses qui ne sont pas tout à fait étrangères non plus. Le côté sadomaso, ça fait aussi parfois partie de la sexualité. C'est pas ignoble.
Personne dit que c'est ignoble. Le problème qui se pose, c'est de savoir si dans l'artifice de la séduction, parce qu'il y a un artifice de la séduction chez elle, le sadomasochiste est un moyen, ou bien si le sadomasochiste est presque une fin. Je veux dire qu'on se pose la question de savoir où elle va exactement. Quelle est la finalité réelle de sa sexualité?
C'est le plaisir. Et le plaisir et la domination. Donc, ça s'arrête là. Je veux dire, elle a envie de donner...
Libido dominandi.
Voilà. Je le dis très bien.
Il est très savant, il parle en latin, ça veut dire le désir de dominer. Voilà. Bon, alors, peut-être, ce qui est important, Vanessa Zocchetti, c'est que nous, nous voulons essayer de voir le rapport avec Casanova. Et Casanova, aujourd'hui, a inspiré très nombreuses plumes féminines qui ont été fascinées par cet amant éternel qu'il est, à l'opposé du cliché erroné d'un tombeur macho. Et parmi les femmes qui ont été séduites par Casanova, il y a Chantal Thomas, dont le Casanova, un voyage libertin, est réédité ces jours-ci chez Folio. Alors, qu'est-ce qu'une femme, aujourd'hui, aime tant chez Casanova? Et est-ce qu'il y a des moments particuliers où elle pense à lui? C'est ce que Chantal Thomas a confié à Olivier Doubre.
Je pense souvent Casanova en entrant dans une chambre d'hôtel ou en passant devant quelqu'un qui m'excite ou en arrivant dans une ville nouvelle. Casanova, pour moi, il est essentiellement dans l'art des départs. Il a un goût presque de complicité avec les autres femmes qui, comme lui, parcourent le monde. Et ce que j'aime dans Casanova, c'est les personnages féminins avec qui on a tout de suite envie de lier une sorte de connivence secrète. Et ces femmes sont aussi libres que lui. Elles ne sont pas du tout broyées par ces histoires d'amour, au contraire de ce qui se passe en face de Don Juan. Elles en renaissent ou prêtes à continuer des histoires du même genre, sans lendemain, ou bien il les marie et donc il inscrit lui-même, il les aide lui-même à l'oublier, mais à l'oublier de manière intermittente, sans haine. Il n'y a aucun ressentiment dans Casanova, c'est une sorte d'euphorie du commencement. Il ne se pose pas la question du respect, d'ailleurs lui-même ne se respecte pas vraiment. Ce à quoi on s'offre quand on lit Casanova, c'est à un mouvement, en tout cas pour moi c'est comme ça, un mouvement de dépossession au hasard des rencontres. Et là-dessus, je trouve, il est vraiment génial. Et en la femme, il suscite ça, cette manière de s'exposer à quelque chose qu'elle ignore elle-même. La dignité des femmes, il ne pose pas les choses en ces termes. Ce qui leur offre, c'est d'ouvrir... Pour elle, il ouvre le monde. Et je crois que le mythe de Casanova, avec tout ce qu'il peut avoir d'arrogant, de trop sûr de soi, si on lit le texte, on comprend très bien que c'est pas du tout ce personnage. Et que c'est au contraire un personnage qui, tout en suivant son chemin, qui était sans partage, parce qu'il est là-dessus vraiment sans flottement et sans ambiguïté, il part seul. Et il est vraiment l'être le plus anticonjugal et anticouple qui soit. En même temps, il est une personne absolument sûre, au sens qu'il y a une étrange fidélité de Casanova. Et c'est un peu peut-être cette voix, à la fois amicale et profondément originale, donc, qui vous fait découvrir l'inouï. C'est peut-être à cette voix que les femmes... sans sensible.
Philippe Solers, on reviendra tout à l'heure sur cette liberté que Casanova donne à ses protagonistes femmes qui sont en face de lui et sur ce formidable, je dirais presque détachement et volonté de voir, ce qui est très moderne, les femmes en face de lui accéder à une responsabilité. On y reviendra tout à l'heure. Moi, j'aimerais vous interroger sur le fait que les jeunes romanciers comme Vanessa Zocchetti, je pense par exemple à Madame Nebécourt, je pense à Houellebecq avec qui vous étiez l'autre jour chez Pivot, ont une vision des rapports sexuels qui est exactement inverse. C'est-à-dire qui est une liaison entre sexe et violence, une liaison entre sexe et domination, une liaison entre sexe et justement mise à mal de cette liberté. Et je voudrais vous interroger sur le fait de savoir si est-ce que Casanova est seulement un homme du XVIIIe siècle, est-ce qu'il n'y a que Solers aujourd'hui pour incarner Casanova, et que signifie cette génération de romanciers qui est à l'inverse de la manière d'être de Casanova?
Je crois qu'ils sont en effet tout à fait de leur époque. Ça, c'est la première chose à dire. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Vanessa Zocchetti dire... de son personnage féminin, tout le monde écoutait ça dans le plus grand calme et la plus grande sympathie, que cette pute amputatrice hein, pour jouer sur les mots, qui coupe les jambes des hommes, etc. Supposons, d'ailleurs c'est pour ça que c'est très intéressant, supposons un homme qui viendrait vous expliquer que son livre, ça consiste à amputer des femmes, à mordre leurs moignons, etc. Il y aurait une gêne dans le... Tandis que là, non, il y a des rires et plutôt de la sympathie. Et vous voyez, c'est ça qui est très intéressant. Donc, il y a là comme un esprit de très d'époque, de revanche et de historique de la part des femmes par rapport aux hommes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je crois que c'est important de voir que tout ce qu'on appelle la sexualité aujourd'hui a été économiquement et historiquement mis dans une sorte d'impasse. Pour des raisons de propagation de cette idéologie absurde, à savoir que tout le monde devait s'en occuper. Voilà. Et c'est le contraire du 19e siècle, si vous voulez. La sexualité au 19e siècle, c'était le diable, le soufre, l'atteinte aux bonnes mœurs, à la religion, à la famille, etc., etc., etc. Il y avait des valeurs, en quelque sorte. Et on traînait Baudelaire, Flaubert devant des tribunaux en prouvant que ce qu'ils écrivaient, qui pourtant ne nous choque pas, nous, aujourd'hui. Enfin, c'est pas sûr, d'ailleurs. Bon. Et puis, en un siècle, on passe à autre chose, c'est-à-dire à une démocratisation intensive, que la marchandise a su instrumentaliser, donc quelque chose de violent, de sexe associé à la violence, etc., qui n'a rien à voir avec le sadisme au sens de ça, non, c'est tout à fait autre chose, mais à cette instrumentalisation de la sexualité, pour des raisons économiques très, très, très évidentes. Et alors là, la protestation ne peut en somme venir que de gens qui trouvent que ça les met dans un état de misère, et il faut la surmonter et aller dans l'excès. C'est pour ça que ces personnages sont intéressants, que ce soit des pentes, Houellebecq, Nobécourt, vous sans doute, etc. Donc, ben voilà, nous sommes dans ce... Alors ça a le mérite de poser la question, de savoir où nous sommes. Alors est-ce que c'est, vous savez, est-ce que c'est 18e et puis tout à coup fin du 20e? Mais ça aussi, ça permet de se dire que l'histoire est en haut et en bas. C'est pas... avant le 18e, le 18e, ça dure pas tout le 18e. Et puis au 19e, il y a une période de répression. Puis au 20e, il y a des époques plus ou moins libres. Et puis voilà. Donc nous, que nous soyons dans une époque pas libre ou pas jouissive dans l'aisance et le détachement, ça me paraît la moindre des choses à dire. Mais c'était pas comme ça, disons, dans les années qui allaient, alors au contraire, vers une explosion qui a eu lieu en 68, si vous voulez, par exemple.
Voilà. Vanessa Zocchetti, est-ce que vous êtes fascinée par l'horreur de vos personnages et par leur situation relativement horrible? Et est-ce que la sexualité de Casimira et autres semble entraîner sous votre plume, je dirais presque, une jubilation à dire, parce qu'il y a une jubilation, c'est un livre très drôle, très enlevé, très alerte. Il y a une jubilation chez vous à décrire cette sexualité un peu hors norme.
Je peux pas dire que j'ai une fascination pour l'horreur. Ça n'était qu'un moyen de faire passer des choses, justement. Et j'avais envie d'utiliser l'horreur, justement, pour amuser. Et je pense que là, c'est exactement ce que vous venez de dire.
C'est cathartique, c'est-à-dire comment voilà. On dit, c'est-à-dire de se libérer. Voilà.
C'est une forme d'expression que j'ai choisie. Et si j'écris un autre livre, je choisirais peut-être pas ça. Mais j'avais envie d'introduire un côté un peu, c'est un mot qui veut un peu rien dire, décalé dans l'horreur. C'est-à-dire qu'on puisse rire de l'horreur. Mais il y a des gens qui détestent le livre parce que justement, ils ne ressentent absolument pas ce côté deuxième degré. Et ils prennent l'horreur telle qu'elle est.
Nicolas Martin.
Alors Vanessa Zocchetti, il y a une chose qui est importante dans le livre, c'est que le roman est entrecoupé de réflexions, ce sont de longues digressions qui constituent le carnet de route de Casimira Georgius. Et ces digressions, on a le sentiment qu'elles disent là encore quelque chose peut-être d'un sentiment de culpabilité, comme s'il était nécessaire pour votre personnage de donner un cadre théorique à ces exactions. Ou pour le dire autrement, on a l'impression que c'est à la fois une manière de prendre ses distances par rapport à ce délire, et en même temps une manière de se rassénérer et de réalimenter le feu de ce délire.
Alors, ces carnets de route, en fait, j'ai voulu livrer sa mécanique intellectuelle. Alors, c'est vrai que c'est un moment où elle se pose, justement, elle écrit. Donc, elle arrête de torturer, elle cesse de faire l'amour. Enfin, bon, donc elle écrit. Et elle écrit des choses très techniques, complètement mécaniques, très systématiques, et qui sont en fait pas très intelligentes. Non, mais c'est vrai, et c'était une volonté. Je n'avais pas envie de montrer que mon personnage était un personnage intelligent. Je voulais montrer que c'était un personnage rusé, mais extrêmement systématique, mécanique, avec des engrenages. Quand elle parle d'intégration, désintégration, c'est d'une absurdité totale. C'est pas intelligent, c'est rusé.
Mais en même temps, elle prend la plume très souvent après ce qu'on pourrait appeler, même si ça paraît incroyable après ce qu'on a dit, une sorte d'accès de sentimentalité. Par exemple, après la naissance de Saturnin ou après avoir fait l'amour finalement avec ce bipède qu'elle va massacrer, enterrer, et une fois qu'elle le met en terre, elle va pleurer.
C'est une pause pour elle. C'est vrai peut-être qu'elle se rassure.
Mais voilà, ça fait rire. Tandis que si c'était un homme qui disait bon, alors je l'ai découpé en morceaux, il y aurait un malaise. Donc je veux insister sur le fait que si ce sont des hommes qu'on tue, ça fait rire. Il y a une sorte de.
Ouais, non, mais attendez, elle ampute des majorettes, elle ampute pas que des hommes.
Tant mieux, alors. Allons-y, attardons-nous sur les exactions de majorettes.
Non, mais c'est vrai que ces carnets de route, c'est un moment où elle. De repos, voilà, de repos à travers les mots. C'est vrai que les mots, sans doute, la rassurent. Si elle ressent un sentiment de culpabilité, grâce aux mots, elle arrive à s'en éloigner.
Mais on voit bien que c'est un roman, parce que je vous regarde, et il est évident que vous n'avez aucun rapport avec votre héroïne. Et ça, c'est une œuvre d'imagination.
Pas de rapport direct.
Venez me voir chez moi ce soir, je vous montrerai ce que je sais faire avec ma scie.
Bien. Avec ce rire-là, je suis tranquille.
Vanessa Zocchetti, je suis sûr que vous êtes intéressée par le fait que la culture catholique soit relativement réfractaire à nous décrire une femme Casanova. Or, c'est ce que vous avez fait, vous, de votre côté. Et ce que je voudrais vous demander, c'est sans doute, pour essayer, en face de cette difficulté, de trouver un moyen de vous en sortir, que vous l'avez mis dans un groupe, presque dans une secte. Parce que les gens, petit à petit, qu'elle convainc et qu'elle séduit, font partie d'un groupe et d'une secte. Or, Casanova, lui, il est libre, il est seul, il est individuel, il s'en va, il quitte, alors que vous, votre héroïne, elle a besoin de cette aide qu'est le groupe.
Oui, tout à fait. Au début, elle est seule, et son unique objectif, c'est justement de créer un groupe et de se fixer, contrairement à Casanova qui voyage. Même s'il est très heureux de revenir à Venise et de retrouver cette terre. Et donc, elle, son objectif, c'est donc, en effet, de se retrouver dans un groupe, mais tout simplement parce que elle a envie qu'on lui ressemble. Et donc, ce groupe est un groupe qui lui ressemble sur un terrain bien fermé. Et donc, elle est dans une espèce de prison idéologique.
Philippe Solers.
Non, juste un mot. La culture catholique, et Casanova le démontre, était au contraire extraordinairement favorable au libertinage.
Au libertinage, oui, mais à la femme Casanova, peut-être mais pas. Si, mais c'est si. Ce qu'on vient de vous dire pour l'Italie.
Mais attendez, on a oublié l'un des personnages les plus fabuleux de l'histoire de ma vie. C'est la religieuse qui s'appelle elle-même et qui était bien une séductrice et qui monte toute une histoire, au contraire.
Et que vous citez dans votre livre.
Maintenant, je crois qu'il faut se faire à une idée simple et peut-être dramatique, c'est qu'en effet, Casanova est un homme.
Bon, c'est donc ce qu'on reverra tout à l'heure avec vous, Philippe Solers. Je rappelle que le livre de Vanessa Zocchetti est un très bon roman, très alert, très enjoué, très agréable à lire. Il s'appelle Croque en jambes et qu'il est publié chez Julliard. Mais tout de suite, comment lire le mythe de Casanova aujourd'hui? C'est la question que nous mettons sur le grill avec vos invités, Nicolas Martin.
Le mythe raconte, le mythe explique, le mythe révèle. Ainsi, dans l'histoire de Don Juan, la statue de pierre est l'élément sacré qui constitue Don Juan comme un mythe. Loin de ce mythe littéraire de Don Juan, Casanova serait un être non mythique. Pourquoi alors la vie de Casanova est une image force, capable d'exercer une fascination collective? Qu'est-ce qui se joue derrière la tentation de mythifier la vie exemplaire d'un Casanova? Que signifie le mythe du mythe de Casanova? Inversement, de quel sens est porteur la volonté de démythifier, de démystifier Casanova? En somme, comment lire le mythe ou le non-mythe de Casanova? Pour rapprocher ces questions, deux casanovistes, le neurobiologiste Jean-Didier Vincent et le psychiatre Jean-Antoine Malarevitch. Jean-Didier Vincent, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes neurobiologiste, professeur à l'Institut universitaire de France, directeur de l'Institut Alfred Fessard du CNRS à Gif-sur-Yvette. Vos livres sont publiés chez Odile Jacob. Alors, après avoir mis en scène des rongeurs dans la biologie des passions, puis Casanova dans Casanova, la contagion du plaisir, Vous, Jean-Didier Vincent, êtes au cœur de La vie est une fable, votre dernier livre. Alors, des rongeurs à Jean-Didier Vincent, en passant par Casanova, Votre recherche se fait toujours plus audacieuse, plus complexe, Jean-Didier Vincent.
Oui, moi j'ai écrit aussi, parce que j'approche l'âge canonique où Casanova a commencé ses mémoires, j'ai écrit l'histoire de ma vie, mais de façon plus brève, puisque ça porte sur les 3 milliards d'années de ma vie. Donc, évidemment, je ne me rappelle que des derniers épisodes, ce qui commence vers mes 5 ans, comme moi aussi, mais avant, c'est très intéressant, parce que pratiquement, on partage les mêmes antécédents. Donc, c'est cette histoire que je raconte. Je revis, comme Casanova, ce qui s'est passé du temps où j'étais un petit mammalien au milieu des dinosaures, quand j'étais poisson, quand j'étais une cellule, quand j'ai connu ma première mitochondrie, etc. Enfin, toute une série de choses qui me remettent dans des situations que depuis j'ai revécues dans ma dernière apparence terrestre.
Jacques-Antoine Malarivitch, bonsoir. Vous êtes psychiatre, thérapeute familial, directeur d'une collection Communication et complexité aux éditions ESF. Votre prochain livre chez Lafon devrait s'intituler « Le couple, 14 définitions décourageantes, donc très utiles ». Casanova, c'est votre oxygène ?
Oui, pour moi, mais pas pour mes patients, heureusement. De toute façon, Casanova, c'est un homme extraordinairement solitaire, mais très très bien entouré. Et il n'y a pas à proprement parler de couple chez Casanova. Il y a des liens, il y a des relations, et puis lui, c'est un rongeur de vie. Enfin, je pense qu'on y reviendra.
Alors, on va y revenir. Alors, Jean-Didier Vincent, mythe ou non mythe, en choisissant d'analyser donc la vie de Casanova à la lumière des découvertes de la neurobiologie, vous procédez plutôt, entre guillemets, à une déconstruction du mythe de Casanova. Reste que ce travail, à partir du moment où il y a déconstruction, présuppose l'existence d'un mythe de Casanova. Et d'ailleurs, mythe au sens où, pour vous, c'est ce que vous dites dans votre livre, cette vie est emblématique de quelques ressorts essentiels de notre comportement. On va y revenir, comme le sexe, l'ennui, le rapport au temps, etc. Mais exemplarité d'une vie qui fascine à la façon d'un mythe, Jean-Didier Vincent.
Non, j'ai voulu justement... Le mythe m'embarrasse. Le mythe de Casanova, comme la plupart des casanovistes, c'est-à-dire s'acharne à démonter le mythe de Casanova. C'est presque une activité obsessionnelle chez les amoureux de Casanova que de démontrer que ce qu'il a écrit est vrai. Et si on tient tellement à dire que cela a été vraiment vécu, même si c'est souvent arrangé dans l'histoire, c'est pour montrer qu'il n'est pas un mythe. Vous voyez, c'est un peu ce qui s'est passé pour le Christ, mais enfin, toute proportion gardée. Mais pour Casanova, moi, j'étais embarrassé parce que j'avais besoin d'un rat qui soit un homme, c'est-à-dire un rat vivant. Or, le miracle ne se produit pas souvent en littérature. C'est de donner naissance à une œuvre qui est un produit vivant. C'est plus un personnage, Casanova. Quand il a réécrit, quand il a fait sa revie, comme il dit, alors qu'il était vieux et qu'il avait toutes ces choses-là dans sa tête, il a recréé un Casanova. Le Casanova, ce n'est pas un Casanova de mémoire, c'est un Casanova de revie. Donc, par le miracle de son génie littéraire, on a devant soi un être vivant. Ce qui fait qu'on peut l'observer peut-être avec la même précision que si l'on avait un rat dans une cage de comportement. Simplement, c'est lui qui s'observe, c'est lui qui se décrit. Et il se décrit avec une absence totale de complaisance et une vie qui est... C'est l'homme le plus vivant de son siècle, disait le prince de Ligne, qui se connaissait lui aussi en vivant. Et je crois que l'homme le plus vivant d'un siècle, qui est probablement le plus vivant de tous les siècles auxquels on est axé, ça me donnait peut-être un matériel. Et je ne portais pas atteinte au mythe, puisque, une fois de plus, le mythe me paraît superfétatoire.
Alors, Jacques-Antoine Malarivitch nous dira tout à l'heure ce qu'il a pensé de votre livre. On va y revenir, mais restons sur cette question mythe ou non mythe avec vous, Jacques-Antoine Malarivitch. Donc, vous m'avez dit, il n'y a pas de mythe, Casanova. Il est la normalité même. Et donc, pour le psychiatre que vous êtes, est-ce qu'on peut quand même pas dire une normalité tellement exemplaire qu'elle confinerait au mythe ?
Non, pas du tout. Le mythe, par exemple, de la séduction, c'est Don Juan. Mais c'est clair que quand on lit Casanova, il y a de la chair, il y a des fluides. C'est extraordinairement humain, donc il n'est en rien un mythe. Peut-être qu'il est un mythe à d'autres niveaux, peut-être celui du XVIIIe siècle, celui de Venise, dont il a eu l'intelligence de partir. Et puis surtout, je crois qu'il est le mythe de celui qui écrit sa vie en vivant. C'est-à-dire il y a une boucle qu'il referme extraordinairement bien, et il est le seul que nous sommes en train de redécouvrir dans une grande mesure.
Mais est-ce que vous tenez compte du fait, comme le dit d'ailleurs Jean-Didier Vincent dans son livre, qu'il peut y avoir de l'élaboration de la part de l'écrivain, justement, dans la présentation de son propre personnage ? Ouf. Quand vous dites qu'il est très humain, il est très humain tel qu'il se présente,
oui,
lui.
Oui, parce qu'il montre ses travers, il montre ses réussites, ses défaites. Ses histoires de femmes sont relativement... Ça fait un tiers du récit. Bon, il y a bien d'autres choses chez Casanova. Donc je pense qu'il y a peu d'élaboration, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de, puisque vous interrogez le psychiatre, qui est de l'ordre d'une psychothérapie, où effectivement il passe quelques années de sa vie, les dernières, à réécrire, à revivre, avec des détails quand même extraordinairement importants.
Alors Jean-Didier Vincent, psychothérapie.
Si je peux me permettre d'intervenir, c'est pas du tout une psychothérapie. C'est vraiment une volonté de revie. Il veut revivre parce qu'il n'a plus d'autres moyens de vivre. Pendant toute une partie de sa vie, il a fonctionné dans l'instant, c'est-à-dire qu'il a tourné le dos à la durée. Et chaque fois que la durée risquait de s'installer, aussi bien dans ses histoires d'amour, il y avait le départ qui intervenait ou la vérole, ce qui est une autre façon de remettre le pays en ordre. Mais si vous comparez des mémoires à celles de Daponte, par exemple, cet usurpateur qui s'est fait passer pour l'auteur de Don Giovanni. Eh bien, si vous comparez les mémoires d'Aponte, mais c'est pisseux, les mémoires d'Aponte, c'est triste, c'est des ragots, c'est mesquin, ce type, moi je le compare à c'est l'ancêtre des pisaïoles de New York, il était migré là-bas, c'est le premier Ital de la Little Italy de New York, et ce pauvre d'Aponte écrit des mémoires minables, il faut bien le dire, elles sont tristes ou nettes, ces mémoires, parce que justement, il n'a aucun talent littéraire, parce que ce scribouillard, ce plumitif, n'est capable que de raconter de vagues anecdotes et ne leur donne pas de vie, parce que Daponte n'existe pas. Daponte n'existe pas, alors que Casanova existe. Il a été créé de toute chair, si je puis dire, par un écrivain génial, un des plus grands du XVIIIe siècle.
Donc il crée son propre mythe, d'une certaine façon.
Qui a créé, non pas un mythe, mais qui a créé cette chose incarnée, et incarnée presque avec l'immortalité, qui s'installe dans la durée, qui s'appelle Casanova, l'auteur et le héros de l'histoire de ma vie.
Jacques-Antoine Narevitch.
De toute façon, il crée son double, en fait. C'est-à-dire, il crée
sorte de double, oui, mais un double pour la durée.
Oui, parce que le double caractérise le mythe, souvent. Enfin, c'est le Borello et Don Juan. Et là, on se trouve en face d'un personnage écrit, et on est sans cesse à la recherche de ce qu'il était. Je vais revenir sur la psychothérapie. Effectivement, encore une fois, on m'interroge en tant que psychiatre, donc je me sens un peu obligé de faire référence à ce que je suis censé savoir. Mais c'est quand même sur les conseils d'un médecin, alors qu'il s'obstinait à faire des mathématiques dans son château en Bohème, qu'il rédige effectivement ses mémoires, avec apparemment, encore une fois, beaucoup de détails. Il a probablement pris des notes toute sa vie à cette fin. C'est quand même quelque chose qu'il a déjà construit dans sa tête pendant de nombreuses années.
Il a des capitulaires où il écrit.
Tout à fait.
Alors, Jacques-Antoine Narevitch, vous le rappelez, vous êtes psychiatre. Alors, deux questions quand même que je ne voudrais pas passer sur silence. C'est la question de la mère et du père. Savoir ce que vous avez envie. Puisque, faisant référence notamment à Lydia...
Oui, alors il a une mère.
Attendez. Lydia Flemme, qui est psychanalyste et qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Casanova ou l'exercice du bonheur. Et elle nous explique que Casanova idéalisera sa mère pour échapper à la douleur de son absence. Et finalement, toute sa vie, il cherchera l'écho enchanteur des acclamations d'une mère absente. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de l'influence de cette mère qui aurait pesé sur son existence? Et Lydia Flemme a une très belle formule. Sa mère est comédienne sur scène. Casanova sera acteur dans la vie.
Bon, il n'y a pas que la mère, il y a le père aussi.
Oui, j'allais venir. Restons, parlons de la mère d'abord.
On peut parler du sang qui revient sans cesse dans ses écrits. On peut parler de cet épisode tout à fait étonnant d'un vol dont il laisse accuser son frère. On peut le comparer à Rousseau, par exemple, avec ses rubans qu'il vole. On pourrait le dire aussi que c'est un bâtard, peut-être, finalement, comme Voltaire. Donc, il y a bien des raisons d'accrocher, effectivement, des explications psychanalytiques ou psychologiques. Je crois que c'est tout autant réducteur que le voir comme un être biologique, par exemple.
Mais vous savez,
Jean-Guy Vincent.
Casanova donne du talent à ceux qui écrivent sur eux, même aux psychanalystes.
C'est vrai, tout à fait. Il y a aussi.
Et donc, c'est vrai que François Roustan a écrit un livre tout à fait merveilleux sur un excellent livre où il tourne un peu le dos à la psychanalyse. Bon, l'explication est trop facile. Je dirais que Casanova est tellement vivant que les psychanalystes ne peuvent pas manquer d'y trouver leur compte. C'est vrai que sa relation à la mère, il va faire des véroles en face de sa mère, par exemple. Il va toujours, il revient quelquefois vers sa mère. Et puis, Venise, la métaphore de la mer, bien sûr, etc. On peut broder. Justement, tout le talent de Roustan est d'éviter le psychanalyse fasciste. Ce que ne fait pas quelqu'un comme Maragnone ou des gens comme ça, ou Torrent, qui sont odieux avec Casanova. Oui. Parce que quand le psychanalyste se met à parler en psychanalyste de Casanova, il en fait soit un PD, soit un obsédé sexuel, voire un malade.
Un incestueux, surtout.
Un incestueux qui est épouvantable, le pire crime, on le sait. Alors,
ouvrons le chapitre, vous venez d'en parler, Jean-Didier Vincent, des Vérols. Bon, juste avant, selon vous, Jacques-Antoine Malarevitch, Casanova, maître à souffrir, expression de Jean-Didier Vincent, ou bien maître à jouir, selon l'image d'Épinal?
D'abord, la maladie pour lui, c'est pas vraiment une interruption, parce qu'il passe son temps, il s'en sert quasiment pour s'observer lui-même. C'est-à-dire, il se sert comme il l'a fait toute sa vie, pour observer ce qui se passe dans son corps, comme dans ses relations avec les autres. Donc il n'y a pas d'interruption, en fait, réellement dans ses maladies. Et puis la chose la plus surprenante à propos de cette vérole, c'est qu'il y a survécu. C'est quand même une chose tout à fait étonnante. Il a eu 6 ou 7 fois, voire davantage.
12 dans les mémoires.
Mais ils sont dénombrés et détaillés dans le livre de Jean-Didier Vincent.
Plus. Mais il n'est pas mort de la vérole.
Mais Jacques-Antoine Malarevitch, je voudrais quand même vous entendre sur cette idée, et je vais donner la parole à Jean-Didier Vincent dans un instant, selon laquelle la personnalité, le sujet Casanova, se construit en quelque sorte dans le feu de ces véroles, qui seraient autant de fécondes mises à l'épreuve du corps et autant de métamorphoses de l'âme. Est-ce que vous partagez entièrement cette idée, Jacques-Antoine Malarevitch?
Symboliquement, oui, bien sûr, parce que je veux dire, c'est...
Et autrement que symboliquement.
Oui. Non, mais je veux dire, tout dépend du statut de la maladie. On peut aller très loin avec sur cette notion. C'est-à-dire, est-ce que la maladie est l'inverse de la vie? Est-ce que la maladie est effectivement dangereuse? Je pense qu'il l'a utilisée. Donc je ne trouve pas qu'il soit plus un maître de plaisir qu'un maître de souffrance, de douleur.
Alors, les deux vont ensemble, de toute façon.
Oui, tout à fait. Ça se rejoint, là aussi, c'est de l'ordre d'une réduction. Mais, par exemple, ce qui est tout à fait surprenant, moi, j'ai parlé de Casanova autour de moi, et puis quelqu'un m'a dit « Ah oui, c'est celui qui a eu la vérole plusieurs fois. » C'est-à-dire, ben, finalement, c'est la lecture qu'on peut avoir actuellement par rapport au sida. C'est-à-dire, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de lire effectivement Casanova au travers du sida.
Alors Jean-Didier Vincent, je voudrais qu'on revienne sur cette idée, Casanova se construit dans la maladie. Je sais bien que ça ne vous a pas traversé l'esprit, mais néanmoins, est-ce que l'arrière-pays de cette idée n'est pas aussi, ne flirte pas, disons, avec une vision rédemptrice de la maladie?
Casanova, c'est un malade qui se porte bien, voilà.
Oui, malade en bonne santé.
Il est toujours dans cet état d'équilibre instable qui peut se définir soit comme la santé, soit comme la maladie, c'est-à-dire un état qui vient d'un compromis entre le plaisir et la souffrance qui doit arriver de temps en temps. Alors, il a probablement, comme c'est un homme qui est très organisé, Casanova, c'est pas un fou qui va au hasard, contrairement à ce qu'on croit. Il bondit, mais il sait où il a l'intuition de l'endroit où il va retomber. Il fait, chaque fois qu'il est en situation de crise, il fait une vérole. Bon, quand il passe de l'état ecclésiastique, au moment où il hésite sur le choix de sa sexualité, on le met sur une île en résidence surveillée. Il attrape sa première vérole avec une grecque, là, tout en travaillant en écrivant des mots pour l'officier. Et puis, après, il va rentrer dans l'église. Il va aller sur les petits trottoirs de l'église à Rome. Et en passant par là, il va s'arrêter à Orsara, où il va attraper une blénorragie de la part d'une bonne de curé. Et comme il fait partie de l'Académie macaronique du coin, il va contaminer tout le pays. Le voilà génie civilisateur, si je puis dire. Et on voit vraiment chez lui le caractère bienfaisant d'une épidémie pour remettre la société en place. Et en même temps, il se fait lui. Voilà. Après, il va aller être confronté à l'ennui à Corfou. Nouvelle étape. Il devient militaire. Nouvelle vérole pour changer d'état. Au point même que tout ça, ce sont des petites véroles. À l'époque, on appelle tout vérole. Mais quand il arrivera au milieu de la vie, quand il va décider de descendre, il va faire une vraie vérole. Ce sera la vérole de Londres, la syphilis. Et ça le marque. Et ça le transforme pratiquement au martyr qu'il va devenir.
Antoine, il y a une thèse de Jean-Didier Vincent sur la vérole civilisatrice.
Oh, il y a un chapitre là-dessus. Oui, c'est la vérole.
C'est intéressant, ça.
Bah, écoutez, au XVIe siècle, là, on parle toujours Calvin, etc., Luther, Christophe Colomb. Mais ce qu'a ramené Christophe Colomb, c'est aussi la vérole. Et il y a eu quand même, au XVIe siècle, 20 millions de morts à peu près pour la syphilis. Hein. Donc le mal de Naples et tout ça. Et si vous suivez le cours de cette vérole à travers les siècles, vous verrez comme elle change de sens et combien elle est un élément de civilisation, bien sûr.
Alors Jacques-Antoine Malarevitch, il y a une idée essentielle dans le livre de Jean-Didier Vincent, je vous entends dessus, et ne me dites pas que symboliquement vous êtes d'accord, à savoir, Jean-Didier Vincent nous explique que la maladie, comme il vient de le dire, mais aussi la perte du jeu, affecte en quelque sorte la vitalité du désir chez Casanova, et qu'il va voyager, il va partir en quelque sorte pour réaffirmer ce désir qui s'émousse. Mais il donne... Alors, je sais bien qu'il ne franchit jamais le pas et qu'il ne tisse pas des liens entre l'expérience chez le rat et chez l'homme. Et néanmoins, il y a une façon, en quelque sorte, d'évaluer le sujet Casanova à l'aune de ses sécrétions dopaminergiques. Ce sont des neurotransmetteurs. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'un peu déterministe qui vous gêne ? Ou qui disent que Casanova est tenu par son désir ?
Oui, j'ai l'impression que vous connaissez la réponse en me posant cette question.
Allez-y.
Alors oui, bien sûr. Mais je veux dire, de la même façon qu'une explication psychologique ou psychanalytique prend les aspects d'une prétention déterministe, effectivement. Donc j'essaye effectivement d'éviter cela. Pour reprendre cette histoire de maladie, Casanova dit « J'ai passé ma vie à travailler pour tomber malade lorsque j'en jouissais et pour travailler pour recouvrer ma santé lorsque je n'en jouissais plus. » Hein ? Donc, je veux dire, il n'y a pas de... Il se sert de la maladie. Hein ? Donc, il se sert de...
Absolument. Mais la dopamine, vous savez, la dopamine, ça sert à faire du désir. Alors, Casanova, quand il n'a plus les moyens d'entretenir sa dopamine, eh ben, il écrit ses mémoires. C'est une autre façon de laisser la dopamine circuler dans le cerveau. C'est comme le reste. Sans dopamine, bon, on est réduit à l'état de légumes. Donc, mais de là à ramener de Casanova à sa dopamine, non, ce serait enfin un rat. Mais il y a des dopamines de plus ou moins bonne qualité. La sienne est très bonne.
Jacques-Antoine Malarevitch, une dernière question. On vous a entendu donc sur Casanova. Vous vous refusez à quelques critiques que ce soit avec le regard du psychiatre qui est le vôtre. Alors je me suis demandé quel sens ça avait. Pourquoi vouloir absoudre absolument Casanova de toute lecture psychiatrique ? Et on peut se demander si Casanova était de nouveau parmi nous aujourd'hui, s'il ne chercherait pas à transgresser cet interdit critique, cette image un petit peu trop lisse que l'on donne de lui.
Probablement. Moi, si on essaie d'imaginer avec nos yeux maintenant Casanova, moi j'y verrais un mélange de tapis cultivés, de Clinton sportif, peut-être un peu de Solaire.
Solaire ne va pas être d'accord. Oui, là il sera d'accord.
Mais enfin, peut-être il n'accepte pas cette promiscuité. Mais enfin, je veux dire, il faut ajouter beaucoup de personnages les uns aux autres, effectivement.
Mais Solaire, en matière de psychanalyste, il a préféré épouser la psychanalyste plutôt que la subir.
Oui, c'est une bonne façon de
faire. Mais effectivement, c'est un bon exemple.
Alors on lui demandera tout à l'heure ce qu'il en pense. Jean-Didier Vincent, merci. Je rappelle donc votre livre, Casanova, la contagion du plaisir, et le nouveau, La vie est une fable. Jacques-Antoine Malarevitch, merci.
C'est pour Casanova un lieu où il passe, un lieu où il est né, bien sûr, un lieu qu'il traverse, un lieu qu'il quitte ou qu'il retrouve, mais ce n'est jamais un lieu où il réside, où il habite. Et curieusement, effectivement, on ne trouve dans les mémoires à peu près aucune description des monuments, des musées, des galeries, des églises. Pas du tout. Alors que, en revanche, il peut s'étendre sur tel ou tel monument qu'il aura visité dans tout le reste de l'Europe. Alors, si Venise est si singulièrement absente de son œuvre, c'est parce qu'elle est trop présente en lui. Je crois qu'il est lui-même tellement Venise qu'il n'a pas besoin de la décrire. C'est l'homme de Venise, c'est l'âme de Venise, n'est-ce pas ? C'est l'homme vénitien par essence. Donc, partout où il ira, il transportera Venise avec lui.
Et en quoi incarne-t-il
l'homme de Venise?
Oh ben il est l'homme de Venise parce qu'il est l'homme du théâtre, parce qu'il est l'homme de la fête, parce qu'il est l'homme du plaisir, de la jouissance, parce qu'il est l'homme de la peinture, de la couleur, du trompe-l'œil, l'homme du masque aussi, l'homme du carnaval. Il est le Vénitien. Venise, vous savez, ce n'est pas seulement un décor et un trompe-l'œil, c'est aussi ce qu'il y a derrière le décor. Et ce qui est extraordinaire chez Casanova, c'est que non seulement il vous montre tout l'aspect rutilant, tout l'aspect flamboyant du théâtre, mais il décrit aussi avec un réalisme saisissant tout ce qui est l'envers, la coulisse. Et alors là, c'est la maladie, la souffrance, la crasse, n'est-ce pas? C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ce double visage de Venise qui est à la fois une terre boueuse, n'est-ce pas? Une espèce, c'est cette rose qui est née dans la boue. Eh bien, il y a ce double visage de Venise dans Casanova. Et c'est en cela qu'il est proprement Vénitien. Il est le Vénitien.
Alors, c'est l'historien Maurice Levert au micro de Stéphane Martinez. Alors, Venise, ça suivait, comme vous avez entendu, l'Orlando Furioso. Ça vous fait plaisir, Philippe Solers, l'Orlando Furioso, parce que c'est la page 107 de votre livre. Vous expliquez qu'il est chanté par Marilyn Horn et que c'est un moment exceptionnel pour vous, un moment exceptionnel pour évoquer Casanova. Et bien sûr, Venise, dont vient de parler Maurice Levert. Alors, je voudrais justement qu'on parle de cette présence de Venise chez Casanova, qui est quand même très importante. Et même s'il n'en parle pas beaucoup lui-même, est-ce qu'il est vraiment Venise par ce goût du plaisir? Est-ce que Venise a cette importance? Quand il dit « Ma mère me mit au monde à Venise le 2 avril, jour de Pâques de l'an 1725 », et puis ensuite vous écrivez, il dit « Elle eut la veille une forte envie d'écrevisse, je les aime beaucoup, oui, forte envie d'écrivisse. Oui. » Ça, c'est l'homme marié avec la psychanalyste.
C'est formidable parce qu'il écrit ça à la fin de sa vie et il se place dans le désir de sa mère juste avant qu'elle accouche. C'est-à-dire, la veille, elle a eu une forte envie d'écrevisse, je les aime beaucoup. Quand il dit « je les aime beaucoup », ça veut dire qu'il est en exil là-bas, au nord-ouest de la Tchécoslovaquie, très loin. Donc c'est une compression du temps. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il ne parle pas de Venise, il en parle énormément, énormément. Et il y a toutes les histoires, d'abord... S'il a été obligé de quitter Venise, Venise, c'est aussi l'évasion de la prison des plombs, qui dure pendant très longtemps, mois après mois. C'est quelqu'un qui est dans un cachot, avec des rats et des puces, et qui, avec un verrou transformé en pieu, va s'échapper par les toits après avoir été changé de cellule, etc. Donc, il y a tout Venise autour de cette prison qui est là. Et puis, il y a surtout, avant, tous les épisodes dans les casinos. Il parle énormément de cette Venise du XVIIIe siècle où la vie était arrivée à un degré de liberté incroyable, où les religieuses sortaient le soir pour revenir le matin, etc. etc. Donc là, il y a un poète qui est peut-être en effet son père génétique, en tout cas symbolique, qui s'appelle Baffo, qui est un admirable poète pornographique vénitien dont on doit lire absolument les poésies, qui parle admirablement de la Venise de cette époque.
Alors, puisque vous parlez de la prison dont il s'évade, j'aurais juste vous interroger sur un point que vous touchez dans votre livre et qui concerne son compagnon. Son compagnon de fuite.
Le moine Balbi, oui.
Et à propos de ce compagnon, il dit qu'il n'est pas assez désespéré pour ne pas craindre la mort.
Mais oui.
Alors c'est intéressant parce que y a une réflexion que vous ne faites pas et une question que je voudrais vous poser. J'ai eu l'impression que s'il n'est pas assez désespéré pour craindre la mort,
assez ça signifie désespéré pour ne pas.
J'ai bien compris pour ne pas craindre la mort. Pour craindre la mort.
Non, pour ne pas craindre. Excusez-moi. La formule exacte, c'est très important.
Pas assez désespéré.
Il n'est pas assez désespéré pour ne pas craindre la mort.
Alors justement, ce qui signifie que pour lui, c'est quand même quelque chose qui serait au bout, ce désespoir. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il regarde à un moment? Il y a un moment où il a une envie de se suicider.
Il regarde toujours la mort en face, oui.
C'est-à-dire, il y a un moment où il a envie de se suicider.
Oui.
Et vous évacuez la chose en disant que c'est pas lui, ça. C'est fugitif, c'est pas essentiel.
Mais je suis pas... Non, excusez-moi. Je crois qu'au contraire, c'est essentiel.
Ah bon.
C'est quelqu'un qui regarde... On peut en faire, si vous voulez, beaucoup là-dessus, sur le tragique de Casanova. D'ailleurs, tout le monde a envie qu'il soit, finalement, angoissé, puni, il dissoluto punito, c'est Don Giovanni, hein, c'est le sous-titre. Le dissolu doit être puni, mais Mozart a ponté, en effet, peu brillant mémorialiste, et Casanova qui a mis la main au livret, se sont amusés avec la crédulité de l'époque. Non, quand il veut se suicider, il a des formules extrêmement importantes sur le suicide, et il dit que le suicide vient. On ne parle pas du suicide par maladie physique insupportable, par souffrance intolérable, hein, de l'euthanasie en quelque sorte. Mais il dit, et ça c'est très important, je sentais que j'allais devenir fou, et donc je préférais me tuer plutôt mort que fou. À quoi il ajoute. Toute personne qui se suicide pour des raisons donc d'affection psychique devrait attendre un peu, parce qu'il peut se produire un événement tel que le suicide devient sans objet. Donc c'est une réflexion d'une profondeur considérable. Imaginez que tous les gens qui se suicident, alors qu'ils ne sont pas atteints d'une maladie mortelle, le font en réalité parce qu'ils ont peur de devenir fous. C'est la folie ou le suicide? Ça va très loin quand même.
Tania Risque.
Oui, justement, Philippe Solers, j'ai l'impression qu'il y a deux manières fausses peut-être de lire Casanova. L'une qui consisterait à trouver, comme Stefan Zweig par exemple, que à force de dire que la vie pour lui était un bonheur, une légèreté, etc.,
donc
trouver donc trop léger et de le mettre de ce côté-là, du côté de cette légèreté-là. Une version.
Mais c'est l'épisode que je raconte avec Mitterrand, vous savez. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'idée.
Bon, donc il y a cette version-là, et puis il y a l'autre version, donc que vous venez de rappeler, celle de nier justement cette légèreté-là et d'en faire un angoissé caché derrière la façade du jouisseur. Or, justement, vous parliez de ce sens du tragique, même s'il est paradoxal. Chez Casanova, j'aimerais bien vous entendre sur ce sens du tragique-là.
Pour qu'il y ait de l'éclat, pour qu'il y ait des couleurs, pour qu'il y ait du bleu, du jaune, du rouge, du vert qui sonne, il faut aussi qu'il y ait du noir. Sans quoi les couleurs ne sont pas là.
Il n'y a pas tellement de noir dans le livre de Solers.
Mais il suffit de très peu de noir, comme aurait dit Manet, pour que les couleurs chantent.
Alors il y en a très peu.
Mais oui, parce que sinon c'est une croûte.
D'accord.
Et plus les couleurs sont... je crois que c'est un point de vue de pensée, ça. Plus les couleurs sont éclatantes, et plus vous avez... Il y a peu de noir chez Van Gogh, vous savez. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui fait chanter la couleur à tel point que... Alors, nous revenons à l'épisode avec Mitterrand, que je voudrais raconter.
Auquel vous tenez,
que,
donc allons-y.
Même, parce que ça me donnera l'occasion, voilà. Donc, c'était Mitterrand en 88, on déjeune ensemble, il arrive, et il me dit, je suis en train de lire, Casanova. Voilà. Et il y avait Octavio Paz, poète, surréaliste, qui dit, oh, Casanova, non, c'est pas bien, il est superficiel, il a pas le sens du tragique. Le cliché classique, comme il y en a tant sur Casanova. Et Mitterrand dit, vous trouvez ce sens de l'instant, cette frénésie, quand même. Il est malade à l'époque. Donc il sait ce qu'il est, puis il est à Venise, souvent. Et, vous trouvez, monsieur Solers, alors, vous trouvez qu'il manque du sens du tragique? Bon, donc c'était le président de la République française, je le rappelle au cas où on l'aurait oublié, et qui lisait Casanova dans un moment difficile, maladif de sa vie, donc un peu tragique, et qui y trouvait en quelque sorte un médicament puissant pour vivre un peu plus longtemps. Voilà. Et ça, je crois que c'est important. J'entendais tout à l'heure les propos sur la maladie. Il y a une formule de Joubert que j'aime beaucoup, c'est dans la maladie, la santé se repose. Donc il y a cette alternance chez Casanova de repos d'une santé peut-être exubérante.
Alors Philippe Solers, vous avez dit quelque chose que je ne peux pas ne pas relever tout à l'heure à propos de Zweig, en disant que Zweig s'était trompé. Il y a un point au moins sur lequel il a raison, parce que vous aussi vous vous trompez sur certains points de Casanova, on va y revenir. Mais moi, il me semble que sur Zweig, par contre, il y a une chose sur laquelle il a raison. C'est le Casanova européen, c'est-à-dire le Casanova politique qu'il voit, de gens ont vu avant Zweig.
Absolument, c'est la politique de Casanova, mais Zweig, non, je veux dire quand Zweig le trouve que finalement, c'est une bulle irisée, vide, etc. Bon, mais européen, oui, là nous sommes d'accord. Et alors là, c'est un point très très important qui est peu abordé. Il y a sa position par rapport à la Révolution française, il y a un Casanova politique, indubitablement. Et d'abord, il a fait beaucoup de missions secrète, diplomatique, sur laquelle on est mal renseigné la plupart du temps. Et ensuite, indubitablement, c'est un grand porteur de témoignages sur ce qu'était l'Europe des Lumières, c'est-à-dire l'Europe française.
Alors, vous voulez bien aller plus loin que la question que vous posez, à quoi bon un libertin en temps de détresse? Essayons de creuser cette question. À quoi bon un libertin en temps de détresse? Est-ce que finalement, Zweig ne nous donne pas une petite clé qui nous permettrait d'avancer? C'est qu'un libertin prend de la distance, au fond, par rapport à la situation.
Vous savez bien comment Zweig a fini. Donc, c'est en effet, dans une époque absolument coincée, l'histoire de l'Europe.
Zweig s'est suicidé, donc il était au Brésil.
Bien sûr, oui. Mais oui, parce que le monde avait basculé dans la dévastation de l'Europe. Or, l'Europe est des Lumières, encore une fois, il n'y en a pas d'autres. reste complètement enfoui. C'est-à-dire que le malaise que vous avez aujourd'hui sur le plan politique ou social vient de cette espèce d'enfouissement et de refoulement de cette Europe des Lumières. Voilà le problème. Et donc, quand vous avez au centimètre carré, si je peux dire, un nombre de génies considérables, commencé par Mozart, Voltaire, la liste est longue. Eh bien, pourquoi est-ce que ça a été aussi refoulé, à commencer par Casanova lui-même et par son texte écrit originellement en français? C'est la question que je pose. Donc, comme tout le monde est angoissé par l'Europe, eh bien, il suffit de dire Casanova qui est à l'aise partout. Alors, à Paris, libertin, à Madrid, à Saint-Pétersbourg.
C'est-à-dire, c'est libertin subversion, libertin capable de penser l'Europe parce que capable de penser des dimensions qui ne sont même pas encore réalisées concrètement.
Je crois que l'Europe avait comme enjeu la liberté de penser qui s'accompagne en effet d'un point de vue extrêmement libertin, libre, autrement dit, il y a liberté dans tout ça, et qu'il y a eu un acharnement au 19e siècle et au 20e, ai-je besoin d'insister, puisque c'est le siècle des massacres, pour empêcher ça. Donc la question est énorme en tant qu'on prendrait l'histoire humaine sur de longues périodes. Il y a des périodes où, en effet, on peut respirer, expérimenter, s'expérimenter soi-même en tant que corps, où en général, comme par hasard, les femmes parlent beaucoup et commencent à dire ce qu'elles ont envie de dire, non pas instrumentalisées pour faire comme on veut qu'elles disent. Hein, Casanova a une formule magnifique quand il est en Espagne à l'Inquisition. Les femmes étaient toutes prêtes à ce moment-là à se venger de ceux qui voulaient contrôler leurs pensées. Voilà. Et évidemment, ils trouvent évidemment des complices immédiats.
Tania Risque.
Oui, pour revenir aux Lumières, Philippe Solaire, est-ce que voir en Casanova un véritable homme des Lumières, c'est considérer quand même les Lumières autrement que la vision canonique qu'on peut parfois en avoir, oui. Notamment qu'on considérait qu'il s'agit peut-être aussi aujourd'hui, moins de bannir les superstitions, l'occultisme au nom d'une raison triomphante, que d'explorer avec lucidité et sur soi-même, comme le fait Casanova, tout le champ de l'illusion humaine, donc aller voir comment ça fonctionne, privilégier l'expérience comme porteuse d'erreur, mais comme riche de vérité, etc. Et donc une autre vision, finalement, que celle des encyclopédistes et philosophes qu'on apprend.
Telle qu'elle a été falsifiée au 19e et au 20e siècle. Monsieur Homais, voltairien. Parce que c'est une énormité dans Voltaire. Voltaire, c'est autre chose que le voltairianisme. Voltaire est plus. Vous ouvrez Candide aujourd'hui, il n'y a pas une Grèce dans ce récit. C'est un récit que vous pouvez ouvrir tout de suite et qui, vous pouvez vous débarrasser de presque toute la littérature contemporaine en ouvrant Candide de Voltaire. Je vous assure, vous ouvrez la fenêtre, c'est immédiat. Et Mozart, c'est la même chose, etc. Donc, pourquoi y a-t-il eu cet engorgement, cette punition, cette psychose et finalement, cette folie et cette tuerie?
Alors, il y a chez Casanova, puisque vous parliez tout à l'heure des femmes, et on a déjà parlé, mais je voudrais aussi y revenir, parce que ça me paraît absolument essentiel, un respect. Alors, tout à l'heure, le mot dignité a été prononcé, Chantal Thomas a dit, et Chantal Thomas, que vous avez publié vous-même,
oui, j'étais content de l'entendre, parce que c'est moi qui ai publié son livre.
Oui, alors justement, Chantal Thomas a dit, non, c'est trop loin, dignité. Et moi, je pense pourtant que dignité convient bien, dignité des femmes, parce qu'elles sont des interlocutrices, elles pensent, elles sont actives, elles ont des désirs, et surtout, ensuite, après avoir été séduites par Casanova, elles continuent à avoir une vie extrêmement développée, dont elles se confient éventuellement à Casanova, tranquillement, comme si de rien n'était, et comme si restait entre eux une image très forte, et comme si la fidélité pouvait exister par-delà les stéréotypes qu'on avance sur l'infidélité de Casanova. C'est-à-dire qu'il serait finalement fidèle aux femmes qu'il a conquises.
Mais bien sûr, il y a même cet épisode extraordinairement émouvant où Henriette, qui est une des femmes françaises qu'il a le plus aimée et qui a dû se séparer de lui parce qu'elle rentrait chez elle, etc., le soigne des années après, lorsqu'il est à Aix et qu'il a attrapé encore une fois une de ses maudites véroles. C'est-à-dire, le fait soigner discrètement, sans même intervenir. Il y a un art de vivre d'une délicatesse inouïe. Puis la formule clé, c'est « mon plaisir a toujours été formé des 4/5 de celui que je donnais ». C'est-à-dire, ça dit
puis
tout.
Il reçoit un sentiment d'immortalité quand il donne du plaisir
aux
femmes.
C'est ça. Oui. C'est donc quelque chose qui est extrêmement significatif pour l'époque. Je crois que la formule en question sur 100 ans, si on écoute la musique de l'époque, il faut Vivaldi ou Mozart surtout, Così fan tutte, c'est du Casanova. Enfin, voilà. Les sexes ne sont pas séparés par cette espèce de hantise, de haine réciproque que la société instrumentalise pour ses besoins de domination. Ils sont très proches là-dedans. Vous n'avez qu'à prendre les tableaux de Watteau. Vous voyez que ces petits papillons, hommes et femmes, dans l'embarquement pour Cythère, etc. Voilà, sont très proches les uns des autres. Mais à condition que ça tourbillonne, à condition que ça fonctionne, à condition qu'on s'amuse, qu'il y ait de la musique, de la peinture, et que les corps soient là.
Alors qu'on s'amuse. Et vous avez bien sûr quelque chose qui pour vous est très important, qui est le jeu. Il y a chez Casanova incontestablement le jeu, le joueur, et on retrouve le portrait du joueur, une œuvre de Solers. Mais j'ai l'impression que le jeu, Philippe Solers, n'est pas sans identité profonde. Que ce qu'on vient de dire sur la fidélité, ce qu'on vient de dire sur des rapports très profonds qui s'instituent avec les personnes qu'il rencontre et qui pour lui vont compter, a plus d'importance que le jeu. Le jeu est une espèce d'entourage, de forme. Je voudrais savoir si finalement vous ne jouez pas quand vous mettez le jeu au cœur même du personnage comme étant son identité essentielle. Est-ce que finalement son identité essentielle n'est pas cachée par le jeu ?
Je ne sais pas, ça dépend de la définition que vous donnez du jeu. La plupart du temps, dès que vous dites jeu, les gens vous répondent par apparence, tricherie.
Il y a aussi ça. Hein.
Oui, mais vous savez que c'est le seul qui dit, qui avoue dans l'histoire de sa vie, quand il triche. Aucun charlatan n'avait écrit les mémoires de ses charlataneries. Casanova, oui, ce qui est une preuve de d'auto-observation et en même temps de confiance dans le jugement de l'avenir. C'est vraiment quelqu'un qui a exploré toutes les coulisses de la crédulité humaine, y compris dans le domaine occultiste, n'est-ce pas ? C'est très important. Mais le jeu, ou bien vous croyez que le monde est un jeu, ça c'est une position métaphysique à la limite, hein, presque mystique.
C'est la vôtre ?
Oui, bien sûr, plutôt. Mais évidemment, à ce moment-là, vous tombez sur des gens, notamment les clergés, qui vous disent « mais tout ça c'est très sérieux, attention, 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 attention ». Et vous pouvez, comme Casanova l'a été 100 fois, être arrêté, mis en prison. En général, il se met à écrire parfois dans des difficultés extraordinaires, en se laissant pousser un nombre
de doigts qui tremblent dans les murs pourris.
Oui, mais c'est
magnifique.
C'est sublime, enfin. Mais oui.
En tout cas, il le raconte. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il le raconte.
Mais bien sûr que c'est vrai.
Tania Risque.
Oui, Philippe Solers, pour revenir à ce que vous dites de Casanova comme philosophe, parce que ça m'intéresse, il y a cette importance du corps, et il y a notamment ce texte remarquable, donc des mémoires de Casanova, que vous citez à deux reprises, c'est celui où il affirme que son impossibilité à concevoir un amour non incestueux d'un père pour sa fille l'a convaincu que, entre guillemets, son esprit et sa matière ne font qu'une seule substance.
Oui, bien l'esprit, mais matière ne font qu'une seule substance.
Alors, voilà.
Mais vous savez, ça c'est très difficile.
Est-ce qu'on peut parler d'un matérialisme ?
Et oui, mais c'est un matérialisme bizarre, parce que quelqu'un qui vous dit ça, ma matière, mon esprit, ne sont une seule substance, dans la vie des gens, en général, ce qu'on peut vérifier tous les jours, c'est qu'ils ne conçoivent pas que leur matière et leur esprit soient une même substance. Ce sont des substances qui ne s'accordent pas, qui ne s'harmonisent pas, hein, qui sont en conflit. Et lui, il vous dit ça froidement, et je crois que ça va quand même très très loin. Il y a un des textes qu'on ne connaît pas de Casanova, parce qu'il a beaucoup écrit dans ses livres de bouquins, là, ce sont ces dialogues en rêve avec Dieu. Sa devise, vous savez, c'est sequere deum, c'est-à-dire la formule stoïcienne, c'est-à-dire tout à l'heure, Chantal Thomas parlait de la rencontre, tout est là, n'est-ce pas ? Il faut suivre le Dieu. Je ne sais pas où je vais, j'y vais. Et puis quelque chose va me dire, une force peut-être plus forte que moi-même, que c'est là que ça se passe. Alors en général, ça passe par des femmes, comme par hasard, dans le jeu, hein, puisque tout le monde empêche le jeu, on empêche les femmes de jouer. Donc la rencontre va se passer avec des femmes. Mais alors il dialogue avec Dieu la nuit en rêve. C'est absolument extraordinaire, ce sont des textes magnifiques qu'il faut découvrir.
Philippe Solers, j'ai dit tout à l'heure que vous aviez le mérite de nous inviter à lire les mémoires de Casanova. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous donnez des textes et en même temps vous les commentez et puis vous laissez des blancs. À ma connaissance...
Faut respirer.
Oui, des respirations. Mmh. Et à ma connaissance, c'est la première fois que vous le faites avec, je dirais, ce côté systématique, en tout cas, d'un de vos livres.
C'est musical, c'est-à-dire, c'est pour montrer parfois, quand je cite, il y a quelqu'un, un journaliste a dit ce matin que c'était une sorte de merveilleux digest des mémoires, mais je crois que c'est vrai, parce que les gens font semblant de lire ces 3000 pages, en fait, ils font semblant de les avoir lues, ils n'ont pas lues. Après, ils disent, ah ben maintenant je vais les lire, mais ils ne les liront pas. Donc 261 pages, vous savez que c'est un travail assez acrobatique. Il faut vraiment sortir la quintessence. Et de temps en temps, on arrive à des contractions d'une telle beauté qu'il faut laisser
respirer. Je vais vous dire ma frustration. C'est que très souvent, vous posez la question du secret de cette légèreté, du secret de cet entrain, de ce qui fait l'énergie, le dynamisme du personnage. Mm-hmm. Et vous n'y répondez pas. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire il suit quelque chose qui pourrait être Dieu, mais qui n'est même pas nommé comme Dieu.
Si, si, Dieu.
À peine. Mais drôle de Dieu. Mais c'est pas le secret. C'est pas le secret de son énergie.
Si, si.
Non.
Il l'a toujours dit. Ça offusquait le prince de ligne, qui disait, enfin, quand même, il nous embête, Casanova, il raconte tout le temps que tout ce qui lui est arrivé, c'est la providence, c'est Dieu. C'est le hasard, mais en tant que joueur...
Non, ce qui lui est arrivé, mais ce n'est pas le secret de son énergie. Je vous parle du secret.
Si, si, le secret, c'est ce qui... Mais écoutez, c'est très extraordinaire. Casanova est un type qui vous dit, avec tout ce qu'il fait, qui n'est pas convenable, c'est moins qu'on puisse dire, il vous dit que, de temps en temps, il prie. Et que l'homme, quand il prie, ne succombe pas au désespoir ni à la mélancolie, qu'il retrouve une force pour agir. Par exemple, quand il s'évade des plombs, sans Dieu, dit-il, je n'y serais pas arrivé. C'est une pirouette, mais sublime, c'est-à-dire que le Dieu de Casanova...
C'est une pirouette ou c'est le secret ?
C'est le secret de s'évader. Hein ? Il s'évade tout le temps. Et la fin de sa vie, c'est la plume qui est sur le papier, 13 heures par jour, qui, dit-il, me passe comme 13 minutes. C'est-à-dire que quand on dit le pauvre Casanova, à la fin, tous les cinéastes, oh, il est vieux, oh, il a écrit parce qu'il était devenu impuissant, impuissant, 13 heures par jour, qui passe comme 13 minutes.
C'est aussi une drôle de figure de la liberté, parce que justement, ce qui ressort de ce que vous dites, c'est que finalement, il n'est ni clérical, ni anticlérical, il n'est ni soumis à la loi, ni contre la loi.
Il n'est pas du 19e siècle.
Et très encore, paradoxal.
Voilà, c'est ça. Eh bien, nous avons à sortir du 19e siècle qui pourrit dans les têtes et qui n'est pas adéquat à la situation très sérieuse dans laquelle nous sommes.
Philippe Solers, alors bien sûr, derrière Casanova, il y a Solers, c'est ce que je disais tout à l'heure. Entre les deux, quelle similitude ? On va écouter l'avis de Maurice Levers.
Je crois que c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Oui, je crois, parce que il y a le dandisme et il y a le casanovisme. Il est bien certain que Solers a beaucoup fantasmé sur Casanova et qu'il y a une identification qui me paraît évidente. Mais c'était vrai. Vous savez, je crois que il y a cela avec tous les personnages dont Solers a parlé. Il y a cette identification. Avec Vivant Denon, elle existe. Avec Casanova, elle me paraît encore plus évidente. Et puis, on attend maintenant qu'il s'identifie au marquis de Sade. Parce que, mais c'est ça qu'on attend de Solers. Hein. Alors, si je peux lancer un message, je dis, donnez-nous donc un marquis de Sade, un Sade solersien. On le lira avec gourmandise.
Alors avant que nous donniez un Sade, Philippe Solers...
Non, mais moi, j'ai déjà écrit sur Sade.
Je sais. Je voudrais vous demander si la dualité qu'il y a dans le personnage tel qu'il a été transmis de Casanova, c'est-à-dire la dualité, la possibilité de se diviser, de s'échapper, comme vous disiez tout à l'heure...
De s'évader.
De s'évader, de partir. Quelque chose qui n'est pas tout à fait chez vous, et qui... Parce que chez vous, il y a aussi cette volonté de se confronter avec l'altérité. Alors, je voudrais vous demander si ça, il y a ça chez Casanova, cette confrontation avec l'altérité, à votre avis, ou si sur ce point, cette volonté d'aller plus loin que ce qu'on disait tout à l'heure sur la fidélité, plus loin, cette volonté d'avoir dans sa vie des points d'altérité qui continuent à exister. C'est pas un tout petit peu plus fort chez vous, malgré tout ce que vous voulez montrer, vous êtes le joueur, vous êtes celui qui bat les estrades, etc. Je sais tout ça. Mais j'ai l'impression que derrière celui qui bat les estrades et le joueur, il y a peut-être plus d'altérité chez vous que chez Casanova.
Mais si c'était la même chose, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, il faut inventer d'autres choses. Moi, Casanova, c'est Casanova, moi, c'est moi. Ça n'a rien à voir, au fond. Sauf, peut-être, cette obsession de l'évasion. Parce que les clergés changent d'allure. Ils ne sont pas ce qu'ils ont été. Ils redeviennent autre chose. On les repeint. Et les dévots reviennent toujours. Il faut combattre les dévots de son époque. Ils n'ont pas les mêmes costumes.
Les dévots, mais pas les dévotes.
Les dévotes, au contraire, sont des aides précieuses que l'on peut détourner, car elles ont beaucoup de choses à dire sur le fait qu'elles s'ennuient énormément avec les dévots.
Tania Risk.
Alors, pour conclure, on pourrait peut-être revenir sur le Casanova écrivain, dont vous rappelez en fait l'extraordinaire talent de conteur, l'art de la composition du récit, et puis surtout le style. cet art de la métaphore et de l'ellipse dans l'écriture érotique notamment, qui esquive la vision directe du sexe tout en sachant être très précis sur certains détails.
Mais oui, c'est ça qui est étonnant.
Et finalement, pour revenir à aujourd'hui, ouais, ouais. En ces temps que vous décrivez comme prosaïques et trop crus, il y a là, chez Casanova, une fusion entre poésie et jouissance dans l'écriture poétique.
Oui, je crois. Vous savez, toujours avec lui, d'abord, c'est un merveilleux conteur, mise en scène, détails précis, des lieux, de la façon de ce qu'il mange, etc. Donc, vous savez, il n'y a jamais en effet d'obscénité. Vous savez toujours ce qui est en train de se passer. Hein, pendant que je me distillais, bon, voilà, par exemple, quelqu'un d'autre vous dit, et oui, mais ça, c'est très beau, parce qu'il faut trouver ce beau, tout à coup, comme un vin. Hein, pendant que je me distillais. Oui. Et alors, donc,
c'est pas trop, hein.
Non, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'alchimie beaucoup, donc il a une science des fluides, des matières. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne peut pas bloquer un élément de la matière. Il faut toujours que les choses se changent les unes dans les autres, et c'est toujours progressif, mélodique, musical. Pas quand il reste 12 heures au lit avec une femme, c'est long. Voilà, aujourd'hui, ça ferait peur à tous les hommes. Pas 12 heures.
Progressif, fluide. 12
heures, c'est le minimum. Alors que, en général, ce dont les femmes se plaignent, comme vous le savez si bien, enfin, je crois, vous devez le savoir en tout cas, c'est que ça soit fini avant d'avoir commencé.
Tout à fait.
Voilà.
Vive Antoine, à la fluidité.
Antoine, vive à la fluidité.
Allez-y.
Non,
c'est un merveilleux écrivain sur le fond aussi. On pourrait faire, et d'ailleurs tout le monde, les éditeurs ne s'en privent pas, des extraits, un choix d'aphorismes. Bon, sois gay, la tristesse me tue. Bon, c'est, voilà. Mais on peut en faire comme ça tout le temps. C'est le génie de la langue française par un Vénitien. Qui se hausse au plus haut niveau avec des italianismes, quelque chose qui amuse les Français de l'époque. Quand il arrive à Paris, bon, la fameuse scène à l'opéra, Madame de Pompadour est là, il dit, vous n'avez pas froid dans votre petit logis, monsieur Casanova? Non, parce que mes fenêtres sont bien calfoutrées. Alors tout le monde se met à rire et Madame de Pompadour lui dit, mais d'où venez-vous? De Venise. Alors vous venez vraiment de là-bas? Et Casanova dit, madame, mais Venise n'est pas là-bas, mais là-haut. Et hop, et sa fortune est faite.
Merci Philippe Solers. Je rappelle que votre livre s'appelle Casanova l'admirable et qu'il est publié aux éditions Plon.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire.
Bien alors, moi, je voudrais vous conseiller d'abord quelques livres qui concernent Casanova. On a parlé du livre de Chantal Thomas, Casanova, un voyage libertin, qui ressort chez Folio. C'est un très bon livre, extrêmement intéressant, très riche, et dans une perspective qui n'est pas tout à fait celle de Solers. Et puis, un livre qui a été très longtemps ignoré, qui a été retrouvé donc par Elisabeth Vaillant, qui est La dernière nuit de Casanova par Pierre Caste. C'est un petit essai assez extraordinaire, où on voit Deligne, d'une part, le prince Deligne, mais aussi Bernice, évidemment, discuter, dialoguer avec Casanova, avec deux autres hommes. C'est un livre qui est paru au cahier Roger Vaillant, aux éditions du Temps des Cerises. Nicolas Martin.
Moi, j'ajouterais juste brièvement qu'il faut lire aussi Le retour de Casanova d'Arthur Schnitzler. C'est un classique, mais c'est magnifique. C'est sans doute un de ses plus beaux livres.
Staccato, une émission réalisée grâce à Nicolas Martin, Tania Risk et Laurent Roth. Reportage, Stéphane Martinez, Olivier Doubre. Correspondance à Rome, Anna Lombardi. Coordination, Caroline Brouet, Béatrice Génodeau, Catherine Donnet. À la technique, Arthur Gerbeau, Philippe Leduc, Gilles Panet. Réalisation, Monique Veilleté.
Une émission d'Antoine Spire.
Cette émission a été diffusée le 15 octobre 1998 sur France Culture.